France Culture, 1897-1962, Georges Bataille, l'enragé.
Qu'aimiez-vous faire étant petit ?
Mon Dieu, je me rappelle surtout d'avoir été très paresseux, et je ne peux pas dire que j'aimais m'ennuyer. Mais enfin, l'ennui profond dans lequel j'ai vécu indique suffisamment ce que j'aimais faire. C'était n'importe quoi qui puisse me distraire. Je crois que j'étais un peu comme tous les enfants.
Quel rôle remplissiez-vous dans vos jeux d'enfant ?
Je crois que j'étais très bagarreur. Je me rappelle cela. J'ai cessé de l'être complètement depuis. Mais j'étais le plus petit de ma classe. Je me bagarrais tout le temps et j'étais très souvent battu.
Vous rappelez-vous ce que vous auriez voulu être quand vous étiez écolier ?
Oh, cela changeait tout le temps. Mais je me rappelle que je lisais beaucoup, beaucoup Buffalo Bill et que j'aurais voulu être Sioux ou quelque chose de ce genre.
Estimez-vous avoir réalisé l'essentiel de vos rêves de jeunesse ?
Il n'est pas devenu Sioux quand même.
Non, mais il en a eu d'autres, il nous dit. Alors.
Ça dépend de quelle jeunesse il s'agit. En général, je ne suis pas mécontent de mon sort.
Pensez-vous être actuellement meilleur et plus pur que vous ne vous trouviez dans votre jeunesse ?
Oui, je crois cela. J'étais très embarrassé avec moi-même étant jeune et cet embarras était en partie moral. Actuellement, il me semble avoir un peu dominé la situation.
Vous avez pris l'habitude de vivre avec vous ?
C'est cela. C'est-à-dire que j'ai pris l'habitude, en effet, du malaise que je ressentais étant enfant.
Février 77, Patrick Wahlberg.
Bataille, en 30-31, était déjà un homme au physique un peu étrange, avec un nez fouilleur, un visage rond, un peu poupin, des lèvres assez sensuelles. Quelque chose comme une sorte de cardinal louche. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas une sorte de personnage équivoque et à la fois très séduisant. Je dis équivoque pas du tout sur le plan moral, c'est l'impression un peu physique qu'il donnait, n'est-ce pas, d'être un peu hilar, un peu ironique et en même temps très sérieux, souvent très grave, avec des yeux pesants, vrilleurs et une certaine beauté incontestable. Et surtout une assez grande séduction de parole. Il avait la parole lente, grave, très posée. Et ce qu'il disait était toujours marqué d'une assez grande originalité. C'est le Bataille qui avait déjà, à cette époque, publié la revue Document, dans laquelle, comme vous savez, il y avait des textes extraordinaires, comme sur l'oreille coupée de Van Gogh, ou sur le gros orteil, des textes qui exaltaient ce qu'il y a de plus bas dans la société, la lie, le pied en opposition à la tête, et une sorte de critique du monde tel qu'il est perçu par la société courante, une critique absolument rédhibitoire. Il parlait de ce monde perçu par la cervelle d'une saucisse qui ressemblerait à celui qui la mange. Vous voyez à peu près le ton dans lequel il plaçait sa critique de la société. Or, dans le cercle de Boris Souvarine, Bataille me fascinait. Et je l'ai suivi lorsque la critique sociale a cessé de paraître, que le cercle communiste démocratique a cessé d'exister. Je suis resté auprès de Bataille, d'abord au mouvement contre-attaque et ensuite dans cette entreprise qui s'appelait Acéphale, qui avait comme parallèle le collège de sociologie. J'ai pratiquement vécu ce que raconte Madame Edouarda avec Bataille. La vie avec Bataille consistait précisément à des expériences très extraordinaires, généralement nocturnes, et qui allaient très loin dans le sens du non-conformisme et d'une certaine provocation érotique. Nous allions ensemble dans des lieux supposés tolérés, nous avions des activités qui tendaient à se rapprocher d'une sorte de rituel, un rituel qui n'aurait pas eu de règles absolues, mais enfin qui était un peu conçu comme tel, c'est-à-dire que ce n'était pas un érotisme banal, mais ritualisé. Et ce que Bataille raconte dans Madame Edouarda n'est pas au-dessous de cette réalité que nous avons pu vivre ensemble. Je ne dis pas que ce sont les termes exacts des aventures, mais on peut dire que c'est réaliste. C'est réaliste dans l'exactitude du récit et, disons, surréaliste dans l'intention. Car, au fond, pour moi, en tout cas, Bataille incarne ce que j'ai appelé une fois le surréalisme noir. C'est-à-dire, comme on peut dire, il y a un sacré droit et un sacré gauche. Alors, disons que Breton, c'était le sacré droit du surréalisme et Bataille, c'en était le sacré gauche.
Quand je te dis que nous nous retrouverons dans l'arc-en-ciel, c'est pour moi aussi brûlant que le feu. Georges, comprends-tu, toi et moi, nous ne pouvons vivre vraiment que de ce qui exalte, et si tout à coup dans la vie quotidienne, il semble qu'il y ait même pas un heurt, mais un manque, nous en voulons trop, et cependant ce trop est quand nous nous retrouvons nus et vrais. Je t'aime de me rappeler à chaque instant toute ma vie, et ce qu'elle doit exprimer. La solitude est retombée sur moi, rugueuse, glacée, mais je m'y retrempe. Aide-moi à exprimer certaines choses devant toi pour que nous nous retrouvions mieux, Georges. Et quoi qu'il y ait, rien ne doit nous diminuer, ni ne nous diminuera jamais l'un par l'autre. Cela, il ne le faut pas. Est-ce une illusion terrible, tu sais, ces retombements atroces, c'est les meilleurs, de penser, de vouloir ainsi, et puis de se trouver avec de véritables mesquineries comme ça, d'un coup, comme rage. Il y a une certaine forme de fuite l'un devant l'autre qui me fait horreur. Tout ce qui m'a amené vers toi et tout ce qui nous a réunis est trop grave. Pour tourner le dos, comme si de rien n'était. Aussi, je veux te l'écrire, parce que c'est plus grave que de le dire. Se saouler ou boire trop constamment me fait un peu horreur, dans la mesure où cela revient à une destruction systématique d'autres forces, où je trouve plus de joie. Et puis cette idée que trop, c'est plus une formule de désespoir que de vie, quand on ne tient pas le coup physiquement. Si tu veux, nous pourrions vivre dans le vrai, mais tout autrement que ces temps-ci, ou bien un peu autrement. Mais ce peu m'importe terriblement. J'ajoute, prenons garde de mettre trop l'un sur l'autre. Nous nous haïrons bien vite. Remarque, c'est toujours ainsi. Il ne faut pas avoir de culte pour aucun être. Il faut seulement sentir entre nous un échange de force et de joie. Laure.
J'ai partagé avec Bataille une maison à Saint-Germain-en-Laye dans l'année et demie qui a précédé la déclaration de guerre. Après la mort de son amie, Colette, dont vous connaissez l'existence sous le nom de Laure en littérature, je suis allé vivre avec lui à Saint-Germain-en-Laye dans la maison que nous avons partagée jusqu'à la déclaration de guerre et même au-delà. Puis il y a eu une séparation et même une certaine rupture. Ce qui m'intéressait chez Bataille, au départ, c'est d'ailleurs c'est la rigueur de cette pensée qui apportait des vues tout à fait nouvelles, aussi bien sur le plan économique que sur le plan du mode de vie. Et puis alors, il y a eu notre désaffection, je pense pas seulement à moi, mais aux gens de mon âge, disons, notre désaffection de la vie politique. Nous avions été plus ou moins engagé, disons militant dans un certain sens, marxiste et autres. Et puis, les choses étaient de telle nature qu'il y a eu une perte totale de confiance et de foi dans les perspectives révolutionnaires de l'époque. Il y a eu le stalinisme que nous avions pressenti et vu assez clairement grâce à Souvarine dès 1929-30. Il y a eu l'arrivée d'Hitler au pouvoir, il y a eu l'effondrement de la République espagnole, le massacre de la République espagnole, il y a eu l'impuissance caractérisée des puissances dites démocratiques, il y a eu notre impuissance totale à nous opposer à toute guerre, à nous opposer à toute montée du fascisme dans ces pays. Il y avait donc une énorme désaffection de gens comme moi, par exemple, et quelques amis, envers la chose politique. Et Bataille apportait quelque chose d'autre, n'est-ce pas ? Nous pensions toujours, comme les surréalistes d'ailleurs, que les deux mots d'ordre devaient être transformer le monde et changer la vie. Eh bien, Bataille s'est proposé d'oublier cette transformation du monde qui ne pouvait pas avoir lieu avec notre concours et de se consacrer au deuxième plan, changer la vie. Et c'est là qu'il a proposé à certains d'entre nous une société secrète avec des rites initiatiques et une société dont l'intention, très puérile naturellement, c'est peut-être ça qui nous a séduit les uns et les autres, très utopique, très chimérique, mais il pensait que cette société, si elle arrivait à se coaguler et à se développer, pourrait agir un peu, disons, à la manière d'un cancer dans la société environnante. Donc a été fondée la société qui a eu pour nom Acéphale, dont la revue Acéphale n'était qu'une expression publique et par conséquent non révélatrice de ce qui se passait par ailleurs. Mais Bataille a réussi cette chose extraordinaire de réunir un certain nombre d'hommes autour d'un phénomène sacré, avec un rituel, de les faire aller à date fixe dans un certain endroit, devant un arbre foudroyé, la nuit, une nuit de nouvelle lune, la plus noire possible, qu'il pleuve ou qu'il vente ou qu'il neige, et de vivre selon des préceptes. C'est-à-dire ne pas faire certaines choses pendant une certaine époque. Au contraire, il fallait être une époque de licence où tout était non seulement permis mais conseillé, et ainsi de suite. C'est cela qui m'a intéressé chez Bataille. C'est cette expérience-là. Pour le reste, je ne suis pas dans la ligne de la pensée de Georges Bataille. Sur le plan de l'érotisme, certainement pas.
Maurice Nadeau.
Ah ben oui, il y avait toujours, chez Bataille, il y a toujours eu une espèce de rage d'ailleurs, enfin, la rage d'écrire, la rage d'aller plus loin, d'aller excéder les limites, enfin, etc. Il y avait ça, ce qui était curieux, c'est cet homme si courtois, si, je dirais pas compassé, mais enfin très, je dirais pas mondain non plus, mais enfin... quelqu'un qui en aurait donné le bon Dieu sans confession, enfin quelqu'un de bien sous tout rapport, enfin trois pièces gilet, cravate, etc. Mais il était fonctionnaire en même temps, il faut pas oublier.
Parce que à l'époque, donc c'était on peut dire un jeune auteur, même par l'âge, puisque c'était son premier livre, L'expérience intérieure, qui était paru quelques mois plus tôt. Et pourtant, il semble que déjà il était précédé d'une espèce de réputation
sulfureuse.
Un peu sulfureuse.
Oui. Un peu sulfureuse. Et l'expérience intérieure, ça avait jeté un peu d'eau sur le feu, l'article de Sartre. On disait, bah, tiens, mais c'est pas tout à fait ça. C'est quelqu'un qui cherche autre chose que de raconter des histoires obscènes ou salaces, etc. Ben c'était ça, Madame Edouarda, Histoire de l'œil, tout ça, c'est des histoires qui étaient minces. Alors, moi, je lisais Sade à l'époque. Je préparais une édition de Sade, qui était la première en France d'ailleurs, qui est parue plus tard, en 1948. Mais je connaissais et je voyais la parenté un petit peu de ces histoires avec celles qu'avait racontées Sade. dans Juliette ou la philosophie dans le boudoir, etc., dans les œuvres de Sade. Bataille, je ne le connaîtrais vraiment. Bon, une fois qu'on s'est vu, on s'est rencontrés, on a parlé, on s'est donné des rendez-vous. Il est venu à Combat. On a eu des rencontres à Saint-Germain-des-Prés ou ailleurs. Mais, on s'approchait un petit peu précautionneusement, disons. Précautionneusement. Parce que j'étais un journaliste, lui était un auteur déjà, pas consacré, était un auteur. Donc les rapports sont de journaliste à auteur quand même. Bon, j'avais fait un ouvrage qui avait eu du succès, dont on parlait, c'était une affaire entendue, mais enfin qui était une histoire, c'était pas... c'était de l'histoire, c'était pas autre chose.
Hein. Lui, vous dites, c'était un auteur... est-ce qu'il n'était pas un peu plus qu'un auteur? Est-ce qu'il n'était pas aussi un penseur?
Oui, ben sûrement, mais ça, je ne m'en suis aperçu qu'au fur et à mesure qu'il publiait. Hein. Mm-hmm. Les ouvrages que je connaissais, bon, puis alors, dans le courant, c'est surtout après la guerre qu'il a publié. Il a publié pas mal. Et je lisais au fur et à mesure les ouvrages qu'il m'envoyait, d'ailleurs. Et bon, il y en a beaucoup qui m'ont... Il y en a beaucoup qui m'ont plus qu'intéressé. Enfin, je veux dire, on était avec une... C'était pas une pensée, c'était un climat qui me rappelait celui de Sade, un peu. Hein. C'était pas pareil, mais c'était moins systématique, si vous voulez. Mais enfin, il y avait un climat assez... qui à la fois vous réjouissait, enfin vous mettait à l'aise et à la fois vous effrayait un peu. Parce que ce qu'il cherchait, on disait, où est-ce qu'il va aller? Qu'est-ce qu'il cherche? Alors il y avait le pôle, comment dire, moi qui m'avais séduit de Breton, d'Aragon, de Perret, de tous ces gens qui voulaient faire la révolution, changer la vie, etc. Mais il n'y a pas de mais qui voulait le faire en même temps qu'ils peignaient, qu'ils écrivaient, enfin qu'ils avaient une activité artistique. Et Bataille ne semblait pas être de ce côté-là. C'était pas de l'art qu'il cherchait à faire, c'était, il vous prenait au cou et puis il vous mettait le nez un petit peu dans ce qu'on voulait pas avoir, dans ce qu'on voulait pas sentir, dans ce qu'on voulait pas avoir en soi. Hein, il y avait un peu ça. Il y avait cette espèce de, je ne sais pas, de côté, je ne sais pas si ça tenait à ses origines, mais enfin, il avait un côté, un peu le côté confesseur, un peu le côté curé, si vous voulez, qui vous force à avouer, à vous dire, tiens, t'as fait ci, t'as fait ça. Non, c'est pas mal du tout, au contraire, il faut continuer dans cette voie. Il vous encourageait à aller dans la voie dans laquelle on penchait un peu naturellement. C'est-à-dire une espèce de libération qu'on avait en le lisant. On disait, ah bon, ben, je suis pas si salaud que ça, puisque bon, si c'est permis par un auteur comme lui, enfin bon. Alors l'obscénité, l'ordure, l'humiliation, tout ce qu'il avait trouver, enfin tout ce qui est dans ces ouvrages, qui est la recherche parfois de l'horreur, enfin enfin il y a des choses même qui est difficile de dire à la radio, quoi. Enfin, hein, bon, quand il cite des passages de Sade par exemple qui m'avait aussi un petit peu, qui m'avait ébranlé, enfin c'était, il s'agissait d'excréments, il s'agissait de trucs, enfin, pas très ragoûtants. Hein. Bon, mais ça faisait partie d'une recherche, d'une expérience.
Mademoiselle, mon cœur, mise nue dans la dentelle. À la bouche parfumée, le pipi coule de ses jambes. L'odeur maquillée de la fente est laissée au vent du ciel. Un nuage dans la tête se réfléchit à l'envers, une merveilleuse étoile tombe. Cœur criant comme la bouche, le cœur manque. Un lit est brûlant. Le soleil ouvre la gorge.
Traduis en anglais, en allemand, en italien ou même en japonais, les textes de Georges Bataille sont désormais disponibles en russe. Elena Galsova a notamment donné dans cette langue une version de L'Impossible, de L'ABC et de Madame Edwarda. Et les mots du lexique érotique de Georges Bataille, comment vous faites pour les traduire ?
Avec justement le lexique érotique, on a beaucoup de problèmes parce que dans la littérature russe, on n'a pas de tradition justement de l'écriture érotique. On a au fond un certain langage érotique qui s'appelle en russe «matierny yazyk» ou tout simplement «mat». C'est un langage assez hermétique qui est composé de 12 racines, à peu près 12, peut-être on peut y ajouter encore une ou deux. Et alors, on fait tout simplement la dérivation des mots et les constructions, plusieurs constructions syntaxiques avec ces mots-là. On a eu, au XVIIIe et au XIXe siècle, on a eu une poésie érotique qui est considérée comme érotique ou pornographique parce qu'on utilisait tout simplement ces mots-là. Quand il s'agit d'une traduction des œuvres comme les œuvres de Georges Bataille, ça donne une impression de très mauvais goût quand on l'emploie en écrivant, parce qu'on n'a pas d'usage d'employer ce langage-là dans la littérature. Et c'est pour ça que, par exemple, mon parti pris, c'est d'éviter ces mots-là, sauf dans les dialogues, par exemple, là où il faut exprimer une émotion très forte. Il faut dire que les romans que je traduis, ils ne sont pas tout à fait riches en désignation des organes inavouables, comme disait Bataille. Bataille fonctionne dans l'euphémisme. Et moi, je considère que mon but, c'est justement d'essayer de travailler sur l'euphémisme et de rechercher le sens profond de l'euphémisme. Et là, on peut donner quelques exemples, comme par exemple « fente » et « velours », très fréquents, dans « L'impossible » et dans « Madame Edwarda ». Dans « Madame Edwarda », il y a le mot « la fente », qui on peut traduire ce mot-là par plusieurs mots en russe, comme quelque chose qui est ouvert, qu'on ouvre avec beaucoup de violence, par quoi on regarde, etc. Assise, elle maintenait haute une jambe écartée. Pour mieux ouvrir la fente, elle achevait de tirer la peau des deux mains. Ainsi, les guenilles d'Edwarda me regardaient, velues et roses, pleine de vie comme une pieuvre répugnante. Alors ici, évidemment, le mot « fente », c'est la fente par laquelle on regarde, et c'est pour ça que je la traduis par le mot « щель ». Alors, c'est « чтобы щель открылась сильнее, она стала обеими руками оттягивать кожу, etc. »
Et ce mot-là a le même sens métaphorique en russe.
Oui, c'est exactement le même sens. Alors là, évidemment, surgit toute la thématique du voyeurisme, toute l'histoire de l'œil, si vous voulez, de Georges Bataille. Et d'autre part, par exemple, dans L'impossible, le même mot, la fente, peut être traduit d'une façon différente, parce que L'impossible est écrit sous le signe de la, disons, violence primordiale qu'exerce le héros principal. Et dans la première image où le héros décrit qu'il imagine qu'il enfonce un clou de grande taille dans la nudité de son amante. Mais comme si, plus d'un instant, elle ne pouvait soutenir une comédie, elle laissa voir la fêlure et d'une voix rauque demanda tu veux faire l'amour ? Et alors je la traduis comme razrif ou même nadrif. C'est quelque chose qui est déchiré, c'est fulure comme déchirure, malgré le fait que dans le contexte, il y a aussi le voyeurisme. Но словно не в силах ни минуты продолжать эту комедию, она тут же показала зияющий надрыв и прохрипела: «Ты будешь трахаться или нет?» Le traducteur, il doit être un peu naïf. Il doit traduire la forme par une autre forme. Parfois, on plonge dans cette naïveté à ce point que on commence à mimer en quelque sorte l'angoisse, la malaise de décrite, disons, par Bataille. Et moi-même et aussi d'autres traductrices de Georges Bataille disaient que traduire Bataille, c'est un peu nuisible parce qu'on tombe dans la dépression. Et justement, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre que, au fond, ce n'est pas du tout la dépression. Et à un certain moment, j'ai compris que, au fond, cette dépression, elle est tellement riche, elle est tellement pleine de sens, de quelque chose qui est justement, en dehors de la perception naïve et physique, que l'essentiel, au fond, dans l'œuvre dans les œuvres que j'ai traduites, c'est justement ce sentiment de joie, de fête. Au début, je percevais un peu Bataille comme quelqu'un de masochiste, ce qui n'est pas. Et maintenant, j'essaie de le percevoir comme quelqu'un qui arrive à une certaine acceptation très joyeuse et très sage de tout ce qui vient. C'est une acceptation joyeuse des choses peut-être dégoûtantes et dépressives, mais d'autre part, c'est quelque chose qui ouvre une compréhension, disons, totale du monde, de l'univers, ou quelque chose comme ça. Et donc, on peut dire que cette joie de Bataille, la joie que j'ai essayé de ressentir et de traduire en quelque sorte, ce n'est pas seulement la joie de dépense, mais c'est aussi la joie de l'acquisition de cet état de la réceptivité totale. Voilà. Qui n'est pas contradictoire justement à la dépense, mais qui est complémentaire, si vous voulez, à cette dépense.
André Masson.
Je milite pour la fureur, l'érotisme. Moi, j'ai fréquenté les burlesques aux États-Unis. Je trouvais que c'était merveilleux. Et à ce salaud de la Guardia qui les a fait fermer quelque temps après que j'étais arrivé, j'étais hors de moi. Je trouvais ce spectacle très beau. Je ne vais plus à la messe, n'est-ce pas ? Bah, ça, c'est un spectacle, c'est du sacré. Comment voulez-vous expliquer ça aux gens ? Que pour moi, ça remplace le sacré conventionnel, hein ? Bon, pas seulement ça, mais la cérémonie du striptease, pour moi, fait que ça ne sera jamais obscène. Si c'est raté, c'est obscène, voilà. C'est comme les courses de taureaux, elles sont obscènes quand elles sont ratées, non? C'est beaucoup plus dégoûtant que d'aller à la Villette, comme j'allais autrefois pour voir tuer les animaux, ou à Vaugirard pour voir comment on égarissait les chevaux, hein. Ah, c'est pas mal de télescoper, d'ailleurs, on l'a fait Bataille et moi souvent, hein. Et avec les risques aussi. L'érotisme et la tauromachie.
Vous savez, à l'époque, tous ces gens comme Léris, comme Bataille et comme d'autres fréquentaient les bordels. C'était leur. L'époque où on se défoulait, tant et plus, où ça existe d'ailleurs, et Masson, oui aussi. Et même en 30, même avant qu'il fasse document, il raconte quelque part que. Avec une fois qu'ils étaient bien sous tous les trois, Léris, Bataille et Masson, ils sont dans un bordel et ils parlent de faire une revue. Bon, ils ont fait document, ils ont fait autre chose. Enfin, ils avaient une vie dissolue, comme on le dit dans la bonne société. Enfin bon, c'était des gens qui fréquentaient les bordels et qui, pour eux, la sexualité, ça devait être cette expression-là. Ça avait été aussi cette expression-là, ce qui n'empêchait pas Léris d'être marié, Bataille aussi, et Masson, etc. Bon, ça, c'est autre chose. Enfin, c'était le libre exercice de la sexualité. Je crois que c'est le plan sur lequel ils se sont battus tous les trois. Masson avec sa peinture, ses dessins de façon extraordinaire aussi. Léris en racontant des choses épouvantables dans l'âge d'homme, enfin ses propres fantasmes, etc. Et Bataille de son côté, ayant écrit Madame Edouarda, puis l'histoire, les histoires suivantes du Bleu du ciel, où il raconte aussi des séances où se donnent libre cours toutes les perversions sexuelles. C'est très curieux. Il avait été séminariste, hein, Bataille. Il avait, je ne sais pas s'il... Enfin, il a pensé être prêtre pendant un moment. Quoi. Je crois que le grand côté neuf de Bataille, c'était cette histoire d'expérience, qui est une expérience, quand il l'appelle intérieure, mais c'est en effet le fait que les hommes ne sont pas faits, ne sont pas sur la terre et dans une société pour travailler, pour gagner de l'argent, pour avoir une famille, pour être pris dans des métiers, des professions, etc. Ils sont faits pour jouir, ils sont faits pour méditer, ils sont faits pour, je ne sais pas, pour aller à leur perte qui est inévitable, qui est inéluctable, et à la préparer, qui sera le néant. C'est quelque chose de très pessimiste au fond, et qui arrive en 45 au moment où d'autres, comme Camus, comme Ionesco, comme d'autres gens, sont aussi des nihilistes, des partisans de l'absurde. Il y a une espèce de changement qui s'opère, qui vient peut-être des événements, qui sont à la fois préparés, en effet, parce qu'on se dit, bon, ce que Bataille écrivait avant la guerre, toutes ces horreurs... bon, elles sont arrivées finalement. Hein. L'homme a été piétiné. Tout ça s'est passé comme il en avait l'intuition. Il y a vraiment dans cette littérature quelque chose qui est bien de l'époque. Hein. Et c'est ça qui fait un peu froid dans le dos encore aujourd'hui quand on lit Bataille. On dit mince. Oui, en fait, et on n'en est pas sorti tout à fait de tout ça. Hein. Au contraire.
Dans un bol de gin, une nuit de fête, les étoiles tombent du ciel. Je lampe la foudre à longs traits. Je vais rire aux éclats, la foudre dans le cœur.
Je vais rire aux éclats, la foudre dans le cœur.
Une nuit de fête, les étoiles tombent du ciel.
La première chose que je pourrais dire, c'est que je dois être à peu près comme tout le monde.
La foudre dans le cœur.
Et que tout de même, enfin, il est certain que... Tout le monde sait ce qui rend l'homme le plus heureux. Ce sont les sensations les plus intenses. Mais enfin, j'ajouterai ceci de personnel. C'est que ce qui me paraît le plus intéressant dans le sens du bonheur ou du ravissement se rapproche davantage de ce à quoi l'on songe lorsqu'il s'agit de quelqu'un comme Sainte Thérèse ou Saint Jean de la Croix que de la première chose à laquelle j'ai assez visiblement fait allusion.
Un bol de gin,
Une nuit de fête, les étoiles tombent du ciel. Je lampe la foudre.
Une nuit de fête, les étoiles tombent du ciel.
Je lampe la foudre à long trait.
Je lampe la foudre à long trait. Je vais rire aux
éclats. Évidemment, je suis philosophe, au moins jusqu'à un certain point, et toute ma philosophie consiste à dire que le principal but que l'on puisse avoir est de détruire en soi l'habitude d'avoir un but. Dans la mesure où l'on peut avoir un but, il me semble qu'on en doit regarder la vie d'une façon tout à fait défavorable. D'abord parce que ce but est limité par la mort, mais tant que l'on vit dans l'instant présent, il n'y a lieu que de voir les choses de la façon la plus favorable du monde, puisque l'on n'a plus la moindre préoccupation concernant l'avenir.
Une nuit de fête, les étoiles tombent du ciel.
Dans un bol de
gin, lampe la foudre à l'entrée, je vais rire aux éclats.
Les étoiles tombent du ciel. Je lampe.
On ne peut pas dire qu'à partir du moment où l'on supprime toute espèce de but, il puisse y avoir même rien. Rien, c'est déjà trop dit, puisqu'on s'en fout.
Je lampe la
les étoiles tombent du ciel.
Je lampe la foudre à long trait.
Une nuit de fête.
Je vais rire aux éclats.
Les étoiles tombent du ciel. Je lampe la foudre à long trait. Je vais rire aux éclats. La foudre dans le cœur.
Ça consiste à supprimer, en somme, ce que des millénaires d'humanité ont accumulé d'ordre dans la pensée, au profit de ce désordre de la pensée qui me plaît et qui me paraît, somme toute, contrevenir à une frustration générale. Dans le désordre de la pensée naît par exemple la poésie. Je ne dis pas que c'est la poésie que j'ai voulu désigner tout à l'heure, mais tout de même c'est une indication. Il y a quelque chose de profondément poétique dans toute espèce de désordre de la pensée, ou des attitudes mieux que de la pensée.
Je me jette chez les morts. En même temps, l'amour me brûlait. J'étais limité par les mots. Je m'épuisais d'amour dans le vide, comme en présence d'une femme désirable et déshabillée, mais inaccessible, sans même pouvoir exprimer un désir. Hébétude, impossible d'aller au lit malgré l'heure et la fatigue. J'aurais pu dire de moi comme il y a 100 ans Kierkegaard, j'ai la tête aussi vide qu'un théâtre où l'on vient de jouer. Il y a 15 ans, j'ai publié une première fois ce livre. Je lui donnais alors un titre obscur, La haine de la poésie. Il me semblait qu'à la poésie véritable accédait seule la haine. La poésie n'avait de sens puissant que dans la violence de la révolte. Mais la poésie n'atteint cette violence qu'évoquant l'impossible. À peu près personne ne comprit le sens du premier titre. C'est pourquoi je préfère à la fin parler de l'impossible. Il est vrai, ce second titre est loin d'être plus clair, mais il peut l'être un jour.
Jacqueline Risset.
À propos de la poésie, Bataille a dit « Je crois n'avoir jamais rien tant haï dans ma vie que la poésie. Mais ceci dit, il faut s'interroger parce que rien n'est aussi complexe que la haine. La haine cache l'amour, la haine distance ou diffère l'amour trop fort. Et en effet, tous les poètes, on peut dire du XXe siècle finalement, tous les grands poètes commencent par une déclaration de haine de la poésie. Est-ce qu'on peut aimer aujourd'hui, au XXe siècle, disons, est-ce qu'on peut aimer une poésie qui est aimée et valorisée depuis le début? Non, certainement pas. Je crois que il y a eu la réaction qui a été très violente déjà chez Lautréamont et chez Rimbaud contre la poésie qu'on trouve chez Nietzsche de la façon la plus violente. Les poètes mentent trop. J'ai honte de d'être encore un poète, dit Nietzsche, etc. Et qu'on trouve chez les surréalistes quand les surréalistes détestent les poètes avec un H aspiré. aspirer. Et c'est ce H aspiré au fond que les poètes détestent au XXe siècle. Chez Bataille, je crois que c'est encore plus complexe parce que la haine de la poésie, c'est vraiment une attente déçue parce que il y a des définitions que Bataille donne de la poésie dans lesquelles on comprend que pour lui, la poésie, c'est une sorte de modèle presque inaccessible, mais qui est le modèle même de ce qu'il indique comme étant le cœur de sa recherche, c'est-à-dire la souveraineté, c'est-à-dire, il a aussi cette formule, la poésie, c'est l'existence libre dans l'instant. Et ça, je crois qu'il n'y a rien qui soit plus au centre de ce que cherche Bataille. Je veux dire, ce qu'il appelle l'expérience, par exemple, c'est ça. Ce qu'il appelle, tout en disant que le mot est insuffisant et qu'il ne l'aime pas, le mot d'expérience mystique, c'est autour de cela que ça tourne. Et ainsi de suite. Donc, pour Bataille, la haine de la poésie, en fait, à ce propos, je fais une parenthèse. La haine de la poésie, c'était donc le titre qui a été donné, qu'il a donné à ce livre, qui est devenu l'impossible dans une deuxième édition beaucoup plus tardive. Et en effet, la poésie pour lui, c'est une sorte de chose pratiquement inaccessible. C'est-à-dire que la poésie trahit toujours la poésie. Il trouve qu'il y a une sorte de naïveté lyrique qui est insupportable. Et il y a certains poètes qu'il sauve de cette condamnation. Évidemment, Rimbaud, René Char.
Qui était un ami.
Et un autre ami, c'est plus étonnant encore, oui. C'est Prévert.
Oui, alors justement, ils sont tellement dissemblables l'un et l'autre. René Char d'un côté, Prévert de l'autre.
Oui.
C'est très étonnant, ça.
Et c'est étonnant, mais il retrouve Bataille à la source de leur démarche poétique, une exigence, et c'est au fond ce qui l'intéresse, une exigence qui est au même degré, qui est une rébellion. C'est-à-dire que chez Bataille, dans l'acte d'écrire, dans l'acte de la poésie, une rébellion est nécessaire. Mais disons que cette exigence de rébellion, c'est cela qu'il aime dans les surréalistes. Et c'est pour ça que, malgré les dissensions terribles qu'il a eues au début des années 30 avec André Breton, Bataille ne reniera jamais le surréalisme. Et même dans la dernière interview, celle avec Madeleine Chapsal, il parle de ce côté de rébellion violente qu'était pour lui le surréalisme, et pour lui le surréalisme a jusqu'à la fin ce sens-là. La poésie de Prévert est plus proche de la chanson. Or, la chanson, pour lui, même la plus pauvre, est dépositaire d'une sorte de rébellion, d'une rébellion qui est d'autant plus forte qu'elle est petite, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'elle porte ce qu'on pourrait appeler la violence, l'ironie du dérisoire. Et au fond, c'est cela qui l'intéresse, parce que il y a un moment dans lequel le chant devient cri. Le chant se purifie jusqu'à l'os qui est le cri, justement, qui est l'émotion à l'état brut. Et pour Bataille, ce n'est pas, disons, le cri qui l'intéresse, ce n'est pas le chant non plus formé en belle poésie, c'est, on pourrait dire, cet instant dans lequel le chant se brise en cri. Et alors, il s'agit de surprendre cet instant.
De ce point de vue-là, la poésie, non pas comme genre, mais comme essence, on pourrait dire, à la suite de ce que vous venez de dire, Jacqueline Risset, justement, elle peut intervenir aussi dans des textes en prose.
Exactement.
Mais pas sous une forme poétique, en somme.
Oui, non, la poésie, c'est au fond aussi, dans la façon dont Bataille l'a définie, c'est aussi finalement l'extrême de l'œuvre d'écriture. C'est quelque chose vers quoi tend l'œuvre d'écriture, c'est-à-dire une poésie une écriture qui est souveraineté, qui est liberté, qui est une espèce d'instant.
Dans un bol de gin, une nuit de fête, les étoiles tombent du ciel. Je lampe la foudre à longs traits. Je vais rire aux éclats, la foudre dans le cœur.
Alain Jouffroy.
Moi, j'ai rencontré Breton 46 et en 47, il m'a conduit à... Breton a insisté beaucoup pour me conduire le 12 mai 47 à la conférence, à la première conférence que Bataille a donnée après la guerre, le mal dans le platonisme et dans le sadisme. Oui, il a parlé surtout du sadisme d'ailleurs. C'est vrai que la parole de Bataille, à ce moment-là, était souveraine. C'est-à-dire, à partir de quelques notes, disposées sur son bureau, comme ça, des tout petits bouts de papier, il improvisait un discours au moins aussi étincelant que celui qu'il reprochait à Aragon de tenir. Bon, appuyé sur des diplômes, peut-être, mais c'était pas le côté universitaire ou académique de son discours qui frappait, c'était au contraire son pouvoir d'éveil, de réflexion approfondie, et comme s'il vivait l'expérience intérieure, pour reprendre ses mots, de sa propre pensée, comme s'il la poussait dans ses retranchements, et qu'il poussait donc la réflexion de ses auditeurs. On aurait entendu voler le plus petit moustique. C'était un silence, je dirais pas religieux, mais d'une attention extrême. Il crée une concentration par sa voix, sa manière à la fois lente, tout à coup un peu plus accélérée, une sorte de diction parfaite et d'élocution parfaite, mais en même temps avec des hésitations bizarres, des silences étranges, des ruptures, une sorte de suspense à l'intérieur des mots et des phrases qui prouvait l'extraordinaire rapidité. Et c'est comme si on assistait à la naissance de sa propre pensée. Peu de fois où j'ai rencontré Bataille, c'était toujours... J'avais l'impression d'un homme fuyant, qui se dérobait à la saisie immédiate, qui, alors que la souveraineté de sa parole était acquise, peut-être qu'il l'a manifesté dans ses conférences, curieusement, dans la vie quotidienne, dans les rapports, il y avait quelque chose de furtif chez lui, je ne dirais pas de sournois, ce serait méchant, mais un peu oblique, un peu dérobade, une mystérieuse, une énigmatique dérobade devant les contacts directs. C'est une impression qu'il m'a donnée. Je pense qu'il l'a donnée à d'autres.
Oui, je crois que c'est une impression qui correspond bien à cette image que nous en avons aujourd'hui, c'est-à-dire... finalement cette duplicité entre l'homme scandaleux, l'auteur de l'histoire de l'œil ou de Madame Edwarda, et le bibliothécaire de la Nationale.
Le bibliothécaire de la Nationale, puis le...
Et puis le penseur
et
aussi.
Et le penseur nietzschéen.
Oui. Vous disiez, Alain Jouffroy, qu'en écoutant ces conférences, on avait l'impression d'entendre une pensée en train de se faire. Oui. Et vous disiez, donc à propos de Georges Bataille, qu'il était finalement plus proche de l'expérience que du système en philosophie. Oui. Finalement, son nietzschéisme était un nietzschéisme assez vécu.
Oui, je pense qu'il n'a jamais voulu séparer...
De même que son sadisme, d'ailleurs.
La pensée de l'expérience vécue. Jamais. Et c'est ça qui était fascinant dans la lecture de ces livres pour un adolescent après la guerre. Je suis tombé sur l'être et le néant. Inutile de vous dire, je n'avais pas l'impression que les considérations philosophiques de Sartre, même quand il parle des garçons de café dans l'être et le néant, étaient liées à son expérience vécue. Il y avait un énorme discord entre le discours philosophique de Sartre et puis l'expérience telle qu'on pouvait la vivre. Tandis que Bataille... Il nous confronte à la douleur, aux larmes, au rire, à la passion, à l'échec, à l'horreur de la vie quotidienne.
Il y a un doigt là où ça fait mal.
Oui. Et donc, une pensée qui se confronte à tel point avec une telle lucidité, une telle concision, une telle clarté cristalline, à des phénomènes qui échappent en général à la réflexion philosophique, c'était une révolution. C'était une manière révolutionnaire de concevoir la philosophie.
À Maurice Merleau-Ponty. Carpentras, bibliothèque Ingambertine, le 28 mars 1950. Mon cher ami, je demande que l'on vous envoie un exemplaire d'une édition de Justine dont j'ai fait la préface. L'éditeur est un garçon courageux, mais qui rencontre quelques difficultés, d'ailleurs purement matérielles. Si vous pouviez faire passer une note dans les temps modernes, je vous en serais bien reconnaissant pour lui. En même temps, je voudrais vous demander un grand service. Je n'ai pas d'exemplaire de la phénoménologie de la perception. J'ai eu l'occasion d'apercevoir qu'indépendamment de l'intérêt que je devrais porter naturellement à ce livre, il me serait impossible de continuer le travail que j'ai commencé sans l'avoir lu. Je prépare en effet une histoire de l'érotisme qui doit être davantage une histoire au sens hegelien qu'au sens commun. Je le demanderai bien à Gallimard, mais je ne suis pas en ce moment en passe de le faire. Je voudrais penser que nous aurons sans trop tarder l'occasion de nous rencontrer. Diane vous envoie ses amitiés.
Bataille a toujours dit que ce qu'il voulait écrire, c'était de la philosophie, mais il a dit aussi une philosophie paradoxale, c'est-à-dire que, au fond, finalement, le seul vrai maître et ami, en fait, veut dire ma seule compagnie sur terre, c'était Nietzsche, qui est un philosophe pas tout à fait comme les autres. Mais pour lui, il lisait beaucoup de philosophie, en particulier Hegel, évidemment, à travers aussi les cours de Kojève. Mais pour Sartre, lorsqu'il parle de Sartre, en particulier dans ce petit texte où il répond aux attaques de Sartre, eh bien, il l'appelle le philosophe. C'est-à-dire, c'est à la fois une forme de respect et une forme d'ironie. Et alors, il n'est pas du tout d'accord avec Sartre, et en particulier, le point est celui-ci, c'est que, justement, je crois que tout est lié entre eux à cette sorte de rencontre manquée, au fond. C'est lorsque Sartre a tout de suite refusé l'expérience intérieure. Enfin, refusé ou disons réduit. Parce que dans le titre même de son article, Sartre définit ses batailles « un nouveau mystique ». Or, Bataille disait dans la première page de l'expérience intérieure qu'il essayait de définir une expérience qu'il n'avait pas de nom et qu'il n'aimait pas le mot mystique parce qu'il rattachait cette expérience à quelque chose d'autre, à un dieu, etc. et que lui ne voulait pas que cette expérience soit rattachée à quoi que ce soit. Et donc, il sent que Sartre méconnaît ce qui est le propre de sa pensée et que Sartre est au contraire en train de rabattre ce qu'il essaie de faire à l'intérieur des codes et des modèles traditionnels. Et c'est là où il définit aussi, c'est une difficulté vis-à-vis de la philosophie, mais c'est en même temps un choix très précis, parce que lorsqu'il énonce aussi du respect pour Sartre, mais il dit qu'il est amusé de se voir sous le jour accusant de la pensée lente. Pour lui, Sartre est enfermé dans ce qu'il appelle la pensée lente. Pour lui, c'est une pensée qui construit, qui procède suivant les modèles, disons, logiques traditionnels.
Rhétorique, presque.
De la rhétorique philosophique spécifique. Et Bataille, au contraire, essaie de se déplacer le plus vite possible dans un univers qui n'a pas de garde-fou. Et dans lequel il se déplace sans aucune garantie. Et Sartre ne peut pas entrer dans cet univers. Dans cet univers qui n'aboutit pas. Parce que pour Sartre, la démarche philosophique a en soi aussi l'obligation de conclure. Et c'est là où Bataille se distingue nettement. Et là, il dit quelquefois qu'il n'arrive pas c'est aussi les critiques qu'il fait à Hegel, lorsque Hegel finit. Hegel conclut, mais en même temps, à propos de Hegel, il dit aussi des choses différentes. C'est qu'on sent, comme on sentait chez Baudelaire, dans ses projets de poèmes, ce qu'il appelait la vibration des limites. Chez Hegel, dit Bataille, chez le dernier Hegel, on sent je crois Derrida a appelé à propos justement des rapports entre Bataille et Hegel, le tremblement de la coque. C'est-à-dire que Hegel construit une immense coque de qui est celle du bateau de la dialectique hegelienne, mais en même temps il perçoit en lui-même une sorte de tremblement de la coque, et c'est Bataille qui vient et qui intervient à ce point-là et qu'il saisit ce qu'il appelle aussi le rire. Et c'est quelque chose, au fond, Bataille admire les philosophes, mais en même temps s'en écarte d'un geste brutal.